Vous écoutez RTL.
RTL.
Pour vous informer chaque jour, les invités que nous recevons cet après-midi ont pris tous les risques, parfois au péril de leur vie.
Et souvent, il y a des gens qui me disent oh, « Vous avez de la chance, vous vivez de votre passion. » Je dis « Mais vous n'avez pas compris, c'est pas une passion, c'est l'engagement d'une vie. »
La curiosité est un vilain défaut.
Il se trame quelque chose du côté de Bassora.
C'est chaud bouillant, ça peut péter d'un jour à l'autre. Enfin bref, Franck, tu pars en Irak.
Eh ben, je suis parti.
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Vous partez combien de temps?
Pour une petite semaine.
Tu connais l'Irak?
Presque. J'étais en vacances à Djerba l'année dernière avec ma femme.
Extrait du film Envoyé très spéciaux avec Gérard Lanvin et Patrick Timsit. Là, c'est pas de la fiction. Bonjour Sinamir.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue. Vous êtes journaliste, grand reporter à RTL. C'est la fin attendue, annoncée là, du califat autoproclamé par le groupe État islamique en Syrie et en Irak qui nous a donné cette curiosité de savoir comment vous travaillez, c'est quoi le métier de reporter de guerre. Vous avez couvert ce conflit pour RTL. À quelle époque et pour combien de temps sur place?
Alors, la première fois que j'y suis allé, moi, c'était août 2014, au moment du début des frappes de la coalition, que ce soit au nord de la Syrie ou la région du Kurdistan irakien, autour de Mossoul et Raqqa, qui ont été prises par l'organisation État islamique, qui sont devenues les deux capitales, les deux têtes de ce califat autoproclamé. Je n'ai pas été le seul, bien sûr, à y aller. Hein. Entre-temps, d'autres personnes de la rédaction ont couvert chaque année cette région et cette zone. Moi, j'y suis retourné après, à la frontière syrienne, en 2016, au moment de la bataille d'Alep et aussi quelques mois qui ont suivi aussi celle d'Idlib.
Quels étaient les risques pour un reporter français à ce moment-là, Sinamir ?
2013-2014, quand la coalition se décide d'intervenir, emmenée par les États-Unis et puis la France, les États-Unis et les autres pays qui vont rentrer, on est dans une période où très concrètement, le journaliste a un prix sur place. Les années 2013-2014, c'est la capture de plusieurs journalistes français qui seront détenus 10 mois. C'est en 2014 la décapitation de James Foley, qui était aussi correspondant de guerre américain, lui, et sur place en Syrie. On est dans une période où il y a une grosse volonté de propagande de l'image de l'État islamique qui a toujours accompagné ses vices et ses actions, mais en tout cas, à ce moment-là, oui, on met en scène le journaliste, souvent à genoux, dans des positions assez inconfortables, si ce n'est meurtrières, et donc voilà, à
donc
ce moment-là, il y a un risque.
De faire croire que vous n'êtes pas journaliste, c'est ça, Sinamir, sur le terrain? Vous vous grimez, vous vous transformez?
On ne va pas jusque-là, on va essayer déjà de savoir dans quelle zone on met les pieds, à quel groupe de combattants elle appartient, quelles allégeances ont été faites, quels risques ont été encourus. Nos premiers yeux sur place, c'est les journalistes locaux, hein. Faut pas se leurrer, on n'arrive pas de France, d'Angleterre ou des États-Unis avec la certitude de maîtriser parfaitement cette géographie et ces régions-là. Il y a des journalistes syriens qui sont de véritables héros pour moi et qui couvrent à travers la guerre civile, à travers la guerre contre Daesh, à travers tous ces fronts qui se cumulent dans cette zone avec leurs appareils photo, avec leurs micros, avec leurs plumes, quotidiennement ce qu'il se passe sur place et c'est des ressources essentielles, forcément.
Sinamir, en ce moment c'est Émilie Beaujard qui couvre ce conflit pour RTL. On n'était pas sûr de pouvoir la joindre et donc on préférait ne pas l'annoncer, mais elle est avec nous en ligne depuis la Syrie. Bonjour Émilie, merci de participer à notre émission.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire simplement, peut-être que vous ne pouvez pas donner de détails, mais où vous êtes et ce que vous préparez en ce moment comme reportage, là, à cet instant, à 14h07 en France?
Bah, écoutez, je suis exactement au nord de la Syrie et je suis en fait devant un camp de réfugiés qui s'appelle Al-Rose. Et c'est là où il y a beaucoup de femmes de djihadistes, hein, en fait, qui sont dans ce camp, plusieurs milliers. Ça peut être des femmes qui arrivent de Raqqa, d'autres qui ont échappé à Mossoul. Et on a demandé, bien sûr, à interviewer des combattantes françaises, mais pour l'instant, les Kurdes nous l'interdisent. Alors là, il y a à côté de moi, vous voyez, à quelques mètres, une jeune femme belge qui, elle, est d'accord pour être interviewée. Enfin, voilà où on est, voilà, à la frontière, vraiment, au nord de la Syrie.
Émilie Beaujard, quelle précautions vous prenez de sécurité, par exemple? Comment vous êtes habillée? Comment vous vous protégez, là, en ce moment même?
Alors là, comme je dis, dans le nord, il n'y a pas de combat près d'ici. Je suis habillée totalement normalement. On est dans une voiture aussi normale, sans plus de protection. On a quand même toujours nos gilets pare-balles pas loin, puisqu'on ne sait jamais. Et la grosse protection, en fait, qu'on prend quand on n'est pas à côté d'une zone de combat, c'est de ne jamais circuler de nuit. Ça, c'est important, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est pas tant des attaques que des accidents de la route, hein, d'ailleurs. Et après, toujours savoir effectivement où on va, prévenir aussi la rédaction de où on est, vers où on va, vers quelle heure on compte rentrer. En fait, on est toujours en lien avec la rédaction en chef. Ils savent en général à peu près toujours où on est, presque à l'instant T, quoi.
Quand on est en reportage comme ça, les déplacements sont parfois compliqués. Ça veut dire quoi? Vous allez d'un checkpoint à l'autre? Il y a des zones comme ça qui sont contrôlées? Alors peut-être pas en ce moment, mais par différents groupes armés. Comment ça se passe?
Oui, alors ça peut arriver. Là, c'est le cas surtout en Ukraine. Les routes étaient contrôlées par des groupes armés différents et on pouvait attendre des heures. On faisait un kilomètre, on allait, on attendait encore. Ici, dans le Kurdistan syrien, il y a des espèces aussi de checkpoints sur la route, mais qui sont plutôt faciles à passer. C'est plus une sécurité rapide pour voir qui passe, en fait, pour contrôler qui passe. Après, les trajets sont très longs, les routes sont très mauvaises. Donc, c'est plutôt ça qui nous ralentit. Et surtout ici, et ce qui est, moi, c'est une des premières fois que je vois ça, c'est qu'il y a une bureaucratie énorme. Et pour chaque endroit où on veut aller, chaque personne qu'on veut interviewer, on est obligé de demander des autorisations, des papiers. Et il y a beaucoup de gens qui doivent signer ces papiers. Donc, en fait, on perd beaucoup de temps à demander des autorisations en amont. Une fois qu'on les a, on peut bouger, en fait. Mais parfois, on attend longtemps avant de pouvoir avoir ces fameux papiers.
Émilie Beaujard, vous êtes reporter de guerre pour RTL. Est-ce que parfois, vous avez peur sur le terrain?
Alors, j'aime pas dire peur. En fait, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que quand je le sens pas, j'y vais pas. Si j'ai peur, déjà, il ne faut pas y aller, parce que quand on a peur, je pense qu'on se met plus en danger. Moi, je fonctionne à l'instinct. Voilà. Quand je ne le sens pas, j'y vais pas, mais je ne peux pas dire que j'ai peur. Non, je n'ai jamais eu peur.
Et vous n'êtes pas seule. Qui vous accompagne pour RTL?
Alors, et oui, on n'est jamais seul, au final, sur ces deux, sur tous ces terrains. Avec Jonathan Griveaux, qui est technicien de reportage, qui est avec moi, et qui est donc là pour prendre... pour m'aider, pour faire des messages, pour prendre des sons d'ambiance. C'est très important, hein. C'est ce qui fait aussi un beau reportage. Et il est aussi avec nous donc mon fixeur, qui s'appelle Barzan, qui est kurde. Et donc un fixeur, c'est quelqu'un qui s'occupe de nous aider pour faire la traduction et pour nous chercher aussi les contacts et pour nous aider, comme je vous disais, pour faire tous ces papiers, parce que là, franchement, il nous faut quelqu'un. Et puis, on a aussi un chauffeur. Ici, tout le monde l'appelle Superman parce qu'il est super bon sur les routes.
Merci beaucoup, Émilie. Bon vent à vous, bon reportage.
Prenez soin de vous, merci.
On a hâte de vous écouter de nouveau dans les journaux sur RTL. Merci encore.
Merci beaucoup.
Sinamir, Jonathan Griveaux, vous êtes aussi parti avec lui. Ce binôme-là qu'on forme avec un technicien, vous allez nous raconter pourquoi c'est très important, pourquoi le fait de ne pas être tout seul sur un terrain de guerre, évidemment, c'est essentiel. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 15h. Afrin et Jiyan étaient arrivés à Baghouz il y a un peu plus d'un mois, amenés de force par des hommes de Daesh qui avaient fait d'elles leurs esclaves.
RTL.
Dans cette ville assiégée, sans nourriture ni électricité, elles se sont retrouvées livrées à elles-mêmes. Afrin, 26 ans, est avec ses deux fils de 4 et 5 ans.
On dormait par terre, dans la rue, sur des nattes en plastique. Il n'y avait plus de maison en état, donc on changeait d'endroit tout le temps à cause des combats.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Émilie Beaujard, qui est actuellement en Syrie pour RTL, on vient de l'entendre dans la curiosité. Elle suit les derniers jours du califat autoproclamé par le groupe État islamique. Et notre invité, lui aussi, grand reporter pour RTL, nous raconte comment travaillent les reporters de guerre sur un conflit comme celui-ci. Sinamir, vous ne partez jamais seul comme Émilie Beaujard. Vous partez avec un technicien notamment. Il s'appelle Jonathan Griveaux. Pourquoi c'est important d'être deux? Comment vous travaillez en binôme?
Alors déjà, il faut juste en préambule, c'est une politique maison. C'est-à-dire que c'est une décision de sécurité, de ne pas partir sur ce genre de terrain à risque, et il se multiplie aujourd'hui. On le voit aussi à travers les manifestations en France, où on travaille un peu de la même façon aujourd'hui, aussi en binôme, parce que pour la vigilance, déjà, tout bêtement, moi j'ai un cerveau, j'ai deux yeux, mais avec Jonathan j'en aurais deux, et deux paires d'yeux. Donc c'est-à-dire que tout simplement...
Donc c'est une vision à 360 degrés
c'est
à
ça,
vous deux, quoi.
De pouvoir sentir quelque chose. Il y a des fois où peut-être que je vais baisser un peu en vigilance sur le terrain, parce que je vais être happé par une interview que je suis en train de faire, par un groupe de personnes que je suis en train de suivre, et je me rends pas compte de ce qui se passe tout bêtement à côté de moi.
Pourquoi ? Parce que ça peut changer très très vite un terrain de guerre,
très vite.
C'est ça ?
C'est un terrain de guerre, un terrain à risque. Je préfère élargir parce que ils sont multiples, mais tout peut, sur une étincelle, peut partir très très vite. Généralement, quand on monte sur une ligne de front, on a balisé le terrain du mieux qu'on a pu. On connaît la fréquence de tir, que ça soit d'artillerie lourde ou que ça soit quel type d'arme équipe à ce moment-là cette zone tampon. Maintenant, oui, ça peut très vite changer. Et puis après, notre plus gros ennemi sur le terrain, c'est la fatigue. C'est-à-dire qu'aussi, nous, on peut être très bien, perdre en vigilance, perdre certains réflexes, certaines capacités d'observation sur les profils des personnes qu'on interviewe en face de nous et ne pas se rendre compte de ce qui est en train de se tramer. Et là, être deux, ça peut arriver aussi que d'un coup, quelqu'un, celui qui sera à côté, aura plus de vigilance, plus la sensibilité pour comprendre ce qui se passe.
Et puis, il y a donc le binôme RTL. Et puis, il y a aussi ce terme que nos auditeurs peut-être ne connaissent pas, le fixeur. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui vit sur place, qui connaît très bien le pays, qui parle la langue. C'est quoi son rôle ? C'est pas seulement un traducteur.
Pour nous, c'est une personne ressource. Comme je vous le disais tout à l'heure, si les auditeurs nous ont entendu au début de l'émission, on arrive sur un terrain. On n'est pas forcément vierge. On a bien sûr enquêté pour comprendre qu'est-ce qu'il se tramait sur place, quels étaient les jeux de pouvoir, quelles étaient les alliances entre des groupes armés, quelles étaient vraiment la topographie géopolitique du lieu. Maintenant, on reste quelqu'un qui vit à Neuilly, là, aujourd'hui, ou ailleurs en France pour nos autres reporters qui peuvent partir des fois sur certains terrains à risque. Donc, on va avoir besoin de quelqu'un qui va pouvoir centraliser ces informations. Et pour les démarches administratives toutes bêtes, comme vous venez d'entendre Émilie en direct de Syrie, qui nous racontait la difficulté de la paperasse pour pouvoir évoluer sur ce terrain-là, mais aussi pour pouvoir avoir accès à certains contacts, à certaines personnes établies qui sont devenues des autorités locales sur le moment, un général, un politique qui sera amené à jouer un rôle dans la transition d'un pays qui est en train justement de basculer.
Mais Sinamia, vous le trouvez comment ce fixeur ? Il y a un annuaire des fixeurs en Syrie ou en Irak ? Non, j'imagine bien sûr que non, mais non, comment on les trouve et comment on peut leur faire confiance ?
Ce sont des
Ils
signatures.
Ont quand même votre vie entre les mains ?
Ce sont des signatures dans leur métier. Généralement, c'est un métier. Le fixing, c'est un métier. Moi, aujourd'hui, en France, je pourrais m'établir aussi en tant que fixeur, si je le souhaite, à un moment, pour pouvoir servir de guide à des journalistes étrangers qui viendraient dans le pays et qui veulent enquêter sur certains sujets. On n'est pas du tout dans le même terrain à risque, même s'il y a des manifestations importantes aujourd'hui en France. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une signature, un fixeur. On sait quel reportage il a, quelles enquêtes il a menées, quels travaux il a pu faire avant.
Mais ça veut dire que les bons, ils valent cher.
Ah, très cher.
Ils sont payés cher.
Très très cher. Et puis, il y a un marché très concret qui est vraiment emporté par les chaînes d'infos continues étrangères, notamment CNN, CBS, Fox News ou Al Jazeera. Quand ils arrivent sur ces terrains-là, ils sont prêts à payer des fortunes, plusieurs centaines de dollars pour une interview. Quand on arrive, nous, en face et qu'on dit pour la journée, c'est tel montant, il va falloir négocier.
C'est quelques centaines d'euros, c'est combien ?
C'est ça. Généralement, grosso modo, aujourd'hui, pour une radio française qui travaillerait sur un terrain comme ça, on paye 100 à 200 euros, 300 euros, 400 euros selon les risques pour une journée de travail avec quelqu'un qui va être parfois à la fois notre chauffeur, parfois à la fois notre guide un peu de la région, même si nous, on a fait des travaux aussi, mener des travaux sur les cartes pour pouvoir savoir où on veut aller, comment et avec qui. Et ensuite, ça sera aussi notre traducteur. Donc la parole des personnes, la parole que l'on récolte, elle dépend aussi beaucoup de sa capacité de traduction. Donc un bon fixeur, c'est quelqu'un qui connaît le terrain, quelqu'un qui a des contacts, quelqu'un qui y va fréquemment parce qu'il connaît justement la mouvance sur le terrain des forces armées et qui en même temps est un bon traducteur.
Est-ce que c'est toujours le même pour RTL ? C'est-à-dire, est-ce que celui d'Émilie Beaujard a été
il arrive généralement tout simplement quand il s'est passé une bonne on a réalisé une bonne mission avec quelqu'un et qu'on a réussi à bien travailler, qu'on a été en confiance avec lui, bien sûr qu'Émilie, quand elle est en Syrie aujourd'hui, je lui conseillerais de partir avec lui et pas quelqu'un d'autre. Maintenant, elle a aussi les personnes avec qui elle a l'habitude de travailler, une relation de confiance, voilà, ça s'installe. On part pas du jour au lendemain avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, sans aucune recommandation ni aucun fait d'armes entre guillemets sur ce genre de terrain, ni expérience pour la Syrie ou pour l'Irak ou pour l'Ukraine.
Alors justement, l'Ukraine, Sinamia, lors du conflit en Ukraine en 2014, vous avez vu la mort de près. Comment oublier certaines images, certains regards croisés là-bas ? Faut-il un suivi psychologique pour les reporters de guerre ? On en parle dans un court instant sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Depuis ce matin et le début du scrutin, ils sont des dizaines de jeunes séparatistes en armes à être apparus dans les rues de Donetsk. Dressés à l'arrière d'un pick-up noir, un à un, ils font le tour des bureaux de chaque district pour vérifier que personne n'y vote.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous nous assurons qu'il n'y a plus d'urnes et que les bulletins de vote ne soient pas livrés, explique ce jeune pro-russe, le canon de sa Kalachnikov pointé vers le bas.
Sur RTL.
Profession reporter des guerres, c'est le thème de notre curiosité. On vous emmène dans les coulisses de la rédaction de RTL et de ses reportages en zone de conflit avec Sinami. On vient d'entendre un extrait de reportage en Ukraine, 2014, c'est
exactement.
Ça c'était quoi, votre première expérience dans ces zones à risque, dans ces zones dangereuses?
Oui, moi je suis trentenaire, 2014 et l'Ukraine, ça a été une période d'actualité très importante pour toutes les rédactions internationales et on a été amené à couvrir nombreux ce conflit qui a débuté autour de Kiev, bien sûr, et après la fuite du président Yanukovych, on est parti à Donetsk, donc à l'est, à la frontière russe, en Crimée également, lorsqu'il y a eu l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. Donc oui, on a été nombreux à partir, et moi c'est une très forte expérience, parce que on bascule d'une insurrection à une guerre civile à une guerre totale, quasiment en 2 jours.
Et ça, voilà. Vous le vivez en direct, là-bas, Sinamir?
Oui, on le vit en direct et on comprend ce qui est en train de se passer, on le vit, on le réalise un peu plus tard quand on en rentre. Mais effectivement, oui, on voit tous les événements s'enchaîner à une vitesse folle et on est amené à changer de terrain et de configuration, même au niveau de sécurité, très rapidement. Parce que couvrir une manifestation, couvrir une guerre civile et couvrir des affrontements, une guerre et des prises de position, c'est pas du
tout
pareil.
Je posais tout à l'heure la question à Émilie Beaujard de la peur, elle m'a dit non, je n'ai pas peur. Est-ce que vous, en Ukraine, en 2014, quand ça bascule comme ça en 2 jours, vous êtes saisi quand même par une inquiétude, une peur? Ou vous la voyez dans les yeux des gens qui vous entourent?
Je me rappelle d'un mardi où la contestation au président Yanukovych sur la place centrale ukrainienne de Kiev, Maïdan, a vu une vingtaine ou trentaine de morts ce jour-là. Et on nous amène, le hall de notre hôtel devient une infirmerie en fait, parce qu'on est sur cette place et c'est là où sont soignés les blessés, sont pris en charge les victimes, toutes les victimes. Oui, forcément à ce moment-là, on ne s'attendait pas. Quand ça vient à vous comme ça, on n'est même pas allé au devant du front, il est venu à nous. Mmh. On voit autant de victimes, bien sûr qu'on n'est pas à l'aise du tout et que c'est un moment très difficile à vivre pour n'importe quel être humain. Après, pour rebondir sur ce que disait Émilie tout à l'heure, la peur, non, parce qu'il y a un côté tétanique dans la peur. On n'a pas envie d'être inactif sur le terrain. On cherche toujours à aller chercher l'information et la retransmettre à nos auditeurs. Maintenant, il faut qu'il y ait un trac. Je pense que c'est indispensable qu'il y ait une petite peur qui permet d'être vigilant, en fait, tout simplement, et de ne pas se sentir trop à l'aise sur ces terrains. C'est un terrain à risque, même si on commence à le connaître parce qu'on a passé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parfois, avec les mêmes interlocuteurs. Il ne faut pas baisser sa garde, tout simplement.
Sinamir, des images de mort, malheureusement, on peut aussi être confronté à ça en France. Ça vous est arrivé après les attentats de Nice. Comment vous faites en revenant? Est-ce que c'est essentiel de parler, de partager, soit au sein de la rédaction, soit même avec un psychologue?
C'est fondamental. Aujourd'hui, dans toute l'approche psychologique qui est faite autour du métier de reporter, de grand reporter, de reporter de guerre, les terrains traumatisants sont tellement nombreux. On peut même remonter à l'année dernière quand il y a des puits de grenades sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On est dans des situations de stress maximum, même si les armes ne sont pas létales, même si il y a une charge d'explosifs qui est moins importante qu'un tir de mortier qu'on a pu déjà connaître. C'est un moment particulièrement traumatisant pour une équipe de journalistes qui vient couvrir ça, pour des manifestants bien sûr, mais qui ont fait le choix d'être là. Donc oui, il y a un suivi. Oui, il est indispensable. Oui, chez RTL, par exemple, la direction est vraiment très moteur aussi sur cet aspect sécuritaire et psychologique pour, et à la fois avant le départ sur la phase de briefing et sur le débriefing, qu'on puisse parler. Après, il appartient à chaque reporter. Moi, je sais qu'aller voir un professionnel, aller voir un psychologue, ça fait partie pour moi de mon métier. Quand je connais des soldats français, ils sont amenés après chaque terrain d'opération à avoir une phase de débriefing et à s'entretenir avec des médecins et des psychologues. Je vois pas pourquoi on passerait à côté.
Voilà. Et avant chaque passage et chaque départ, Sinamir, est-ce que vous vous êtes préparé, ou même pour un jeune reporter de guerre avant de partir en Ukraine, est-ce qu'il y a une préparation?
Alors, il y a des stages qui sont organisés. Faut pas croire qu'on est affilié à l'armée pour autant. C'est des stages généralement qui sont plus d'initiation, de découverte dans des milieux à risque. On recrée des terrains à risque, des situations de stress qui existent des fois sur le terrain. Et on est encadré par l'armée française qui va nous faire ces stages. Mais c'est plus on va dire, une prise de contact aussi avec les différents services de l'armée, qu'on montre qu'on peut travailler avec eux sur le terrain, qu'on peut ne pas être une charge pour eux sur le terrain, parce que bien souvent, emmener des journalistes dans un blindé, c'est une prise de risque aussi pour les personnes qui les font monter à bord. Et à la fois, c'est une charge, tout simplement, une personne à prendre en charge en plus. Donc ça peut être difficile pour eux. Donc on a des stages où on recrée des prises d'otages, où on recrée des situations à risque comme ça qui peuvent nous préparer. Ouais.
On continue de parler du métier de reporter de guerre dans la curiosité. Et puis juste après, on change complètement d'univers. On va découvrir le plus grand duo comique de l'histoire d'Hollywood, Laurel et Hardy. Restez avec nous, les curieux.
RTL.
Je me trouve à une dizaine de kilomètres de la ligne de front et ce sont bien les positions des talibans qui sont visés par les bombardiers B-52.
La curiosité est un vilain défaut.
Très haut dans le ciel, à plus de 7000 mètres d'altitude, les avions arrivent en silence et quelques minutes après, c'est une série de bruits sourds. Dans la plaine désertique de Kalataka, pas de jeep, pas de blindé. Le seul moyen d'aller au front, c'est à cheval.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La voix de Pierre Billot pour clore cette séquence consacrée au reportage de guerre sur RTL. Pierre Billot, qui était grand reporter, qui est mort le 11 novembre 2001 en Afghanistan. Il était tombé dans une embuscade avec d'autres reporters. Il y avait Johan Sutton de Radio France Internationale, Volker Handlock du magazine allemand Stern. Sinamir, c'est évidemment un souvenir et même sa voix, son image qui accompagne la rédaction, qui nous accompagne à RTL.
Qui est toujours bien sûr au centre de la rédaction. On a des illustres comme Pierre Billot qui ont marché avant avec le micro RTL à la main et voilà, qui malheureusement sur ce genre de terrain, ça nous rappelle tous les jours à notre vigilance et à se dire que personne n'est à l'abri, c'était pas une tête brûlée. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut battre en brèche d'entrée. On n'est pas des personnes et nous non plus à la rédaction qui veulent absolument être au plus près. Pour être au plus près, on est là-bas pour faire notre métier, on en mesure les risques tous les jours, on essaye de le faire du mieux que l'on peut, et des fois, malheureusement, il y a des drames comme celui-ci qui
arrivent. C'est un engagement, reporter de guerre, c'est pas une passion, on entendait ça au début d'une mise en onde de notre interview pour vous.
C'est un engagement, je dirais que c'est un CDD aussi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir aussi connaître ses limites, savoir si on peut toujours le faire, si on peut renouveler l'expérience, ou si il faut tout simplement laisser la place à d'autres, parce qu'on n'est plus dans les meilleures dispositions pour partir aussi. J'espère que le CDD se termine bien sûr, il n'y a pas d'oiseau de mauvais augure derrière tout cela, mais voilà, il faut savoir tout le temps réactualiser son savoir et savoir si on est vraiment prêt à, selon toutes nos personnalités et nos contingences dans la vie, si on est prêt à repartir.
Et puis Sina, on va terminer par une scène un peu cocasse, parce que ça arrive, on se balade comme ça dans les couloirs d'RTL, un jour il y a un invité, une personnalité du monde du showbiz qui arrive pour une interview, et il tombe sur quoi dans les couloirs? Il tombe sur deux équipes qui se préparent, c'est ça?
Oui, c'était juste avant qu'Emilie, que vous avez entendu tout à l'heure, parte en Syrie, un invité est arrivé, il est tombé sur un paquetage avec deux gilets pare-balles et deux casques à l'intérieur. J'ai jamais vu autant de sidération dans les yeux de quelqu'un l'espace de quelques secondes. Il y a eu un flottement et on lui a dit ça va, vous allez bien? Et il a dit oui, mais je vous avoue que j'ai jamais vu ça et que j'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'arriver chez RTL et de trouver deux gilets pare-balles et deux casques plantés là. Ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre équipage. On essaye tout simplement de minimiser les risques au maximum. Ça peut nous aider, oui, sur le terrain.
Merci beaucoup, Sinamir. Bon vent à vous et à très vite sur l'antenne d'RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.